Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre ce qui est fort. Ces paroles, l'apôtre Saint Paul les prononce dans sa première épître aux Corinthiens. Mais je pense qu'elle résume parfaitement cette péricope que nous venons de lire, de tirer de la deuxième épître aux Corinthiens, donc dans laquelle Saint Paul résume bien, développe plus exactement cette pensée en montrant la condition des serveurs de Dieu, d'une part, et l'apparence qu'ils ont aux yeux du monde. Vous voyez, toute la fin de cette épître, hein, nous sommes comme morts mais pourtant vivants, etc. Donc, eh bien, chers frères, cela nous invite à nous interroger en ce début du carême sur justement cette opposition entre la pensée du monde et la pensée de l'Évangile. La pensée du monde qui a tendance à valoriser la puissance, la richesse, le statut social, le succès personnel. Il s'agit de réussir sa vie, n'est-ce pas, d'une façon très matérielle. Ceux qui dominent, ceux qui réussissent, les hommes puissants, sont perçus comme importants, comme des gens qui ont réussi. Ces critères, bien sûr, sont basés sur des apparences et la logique de l'efficacité humaine. Et pour nos contemporains, c'est ce qui semble offrir un sens à leur vie. Pourtant, ce n'est pas le cas du chrétien. Ce n'est pas la considération du chrétien parce que ce n'est pas la considération de l'Évangile. C'est ce que vient de nous montrer l'apôtre Saint Paul, c'est ce que vient de nous montrer notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait pénitence, jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, et il nous montre la faiblesse corporelle. Il a faim et soif. Il nous montre aussi la faiblesse spirituelle. Il est tenté. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ n'a aucune faiblesse spirituelle. Il est tenté uniquement de l'extérieur par le démon. Le démon n'a aucune accroche en notre Seigneur, contrairement à nous qui avons les conséquences du péché originel. Cependant, il veut nous montrer la réalité de cette faiblesse et de cette capacité finalement à être tenté. Et donc, l'Évangile nous montre, nous présente une logique qui est différente, qui est même opposée à la logique du monde. C'est la logique fondée sur la faiblesse apparente, sur l'humilité, le renoncement, ce qui semble être un échec, une défaite selon le monde, comme la mort de notre Seigneur sur la croix. Dois-je vous le rappeler, le sommet du carême, ce sera la semaine sainte, l'échec total, le vendredi saint. Tout semble terminé. Les pharisiens, avec leur esprit du monde, eux qui voulaient un royaume d'Israël conquérant, puissant, matériel, un messie puissant, ils se moquent de cette défaite apparente de notre Seigneur. Il hoche la tête et ils croient, eux, avoir vaincu le Sauveur. Donc l'exemple ultime, mes bien chers frères, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, donc, la croix est un triomphe divin. Donc le carême nous invite à faire un choix. Adopter les critères du monde ou adopter les critères de Dieu. Donc il est important de devenir bien conscient de ce que sont les critères du monde. D'être conscient également que nous sommes tous influencés par ces critères du monde. Le temps du carême est donc un temps qui nous permet de nous remettre en question par rapport à cela. Alors la logique du monde, mes bien chers frères, c'est une quête de puissance, une quête de succès, c'est une compétition permanente, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les entreprises, que ce soit à l'école, dans les universités, tout n'est que compétition pour un but humain, pour de la reconnaissance, de la gloire, de l'argent. C'est ça, mes bien chers frères, l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est une recherche de sécurité, une recherche de domination. Le monde repose sur des critères visibles, tangibles. Ce qui a de la valeur ou ce qui est vrai, c'est ce qui se voit, ce qui se touche, ce qui se palpe. Le monde est matériel et donc le succès doit se mesurer matériellement. C'est ça l'esprit du monde. Pour réussir sa vie, eh bien, il faut avoir soit une sécurité. Alors, il y en a qui se contenteront de quelque chose de simple, vous me direz. Une sécurité matérielle, un toit, quelques vêtements, et même certains, pour eux, ce sera vivre d'amour et d'eau fraîche. Apparemment, ils ne rechercheront pas la puissance, mais ils rechercheront quand même une certaine sécurité purement matérielle. Le but, donc, n'est pas du tout spirituel. L'homme cherche, et en général, on le voit autour de nous, une position dominante pour éviter la souffrance, pour garantir son bien-être. Le pouvoir est perçu comme un moyen d'agir aussi sur les autres, sur le monde, et donc de contrôler notre environnement, d'imposer sa volonté, d'obtenir le respect. Nous ne le voyons que trop bien, bien sûr, dans les oppositions entre les hommes politiques. Mais cela vaut en réalité pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est tenté par ce pouvoir, cette domination sur les autres, sinon d'être les premiers, du moins de ne pas être méprisés, de ne pas être les derniers, d'avoir une sécurité matérielle, même si on ne cherche pas à dominer les autres. On pense qu'on est maître de nous-mêmes, de notre destin. On pense se suffire à soi-même. On cherche à ne dépendre de personne, que ce soit dans sa vie temporelle ou dans sa vie spirituelle. On veut mener sa vie spirituelle comme on l'entend, sans jamais se confronter au jugement du prêtre, du confesseur, du directeur spirituel. C'est la même mentalité, c'est la mentalité du monde. Et parfois même certains sont encore plus vicieux parce qu'ils vont s'excuser soi-même, s'illusionner soi-même en se disant, eh bien, non, il ne faut pas déranger le prêtre, les choses sont simples, etc. Pas du tout, il faut se confronter à cela, à nous-mêmes, à notre propre désir de suffisance, désir d'indépendance, notre jugement propre. On ne veut pas le confronter à un jugement extérieur pour éviter justement de se corriger soi-même ou pour éviter même simplement de la souffrance psychologique, spirituelle, qui pourtant dans ce cas-là serait une souffrance bénéfique parce que menant à la conversion. Le monde actuel nous pousse à l'indépendance, à refuser tout ce qui semblerait de la faiblesse. Le monde considère de la faiblesse de demander de l'aide. Chacun d'entre nous a besoin de l'aide, l'aide de Dieu, l'aide des autres, dans notre vie temporelle, dans notre vie spirituelle. L'autonomie, l'efficacité sont glorifiées. Réussir dans la vie, c'est accumuler des biens temporels, c'est être reconnu, c'est éviter les épreuves. Alors, on rejette la souffrance, on rejette la mort, on rejette le sacrifice. C'est toutes ces discussions, bien entendu, sur la fameuse soi-disant euthanasie, bonne mort, qui n'est pas du tout une bonne mort, parce que bien mourir, c'est mourir dans le Seigneur, ce n'est pas mourir sans souffrance. Il y a toutes ces théories véhiculées par le transhumanisme. On veut éradiquer la souffrance humaine, la souffrance corporelle. On veut quasiment éradiquer la mort même. De même, et cela est véhiculé par les modernistes qui occupent le Vatican, où on voudrait éradiquer même toute misère humaine, éradiquer la pauvreté. Ce n'est pas possible. Et non seulement ce n'est pas possible, mais ce ne serait pas bon, pas conforme à la nature humaine et la nature tout court telle qu'elle est créée par Dieu, telle qu'elle est tout simplement. Parce que en dehors de Dieu, il y a de l'imperfection, il y a de l'inégalité. Et donc, ce manque d'acceptation des inégalités réelles, et qui ne sont pas des injustices, mais qui sont juste dues à la nature, tout cela, on ne peut pas évidemment l'éradiquer, mais le monde a tendance à le fuir. Toutes ces théories soi-disant d'euthanasie, ces théories aussi d'eugénisme, c'est-à-dire d'éliminer avant qu'ils naissent les enfants qui pourraient être porteurs de telle ou telle maladie, de telle ou telle infirmité. C'est ça le monde, le rejet de ce qui peut faire souffrir d'une manière ou d'une autre. Et encore, c'est très vicieux, parce que ça peut sembler partir de bonnes intentions. Ne serait-ce pas une bonne intention qu'il n'y ait aucun pauvre sur terre, personne dans la misère? Ne serait-ce pas une bonne intention de penser que les gens doivent mourir en bonne santé, quand il leur plaît, comme ils veulent? N'est-ce pas une bonne intention de penser que nous devrions éviter que des personnes naissent avec des infirmités corporelles, psychiques, etc.? Ça paraît bien, sauf que c'est en dehors du plan de Dieu. Et s'il en était ainsi, nous ne pourrions plus pratiquer la charité envers le prochain. Charité corporelle, charité spirituelle, œuvre de miséricorde, aumône, etc. S'il n'y avait plus de maladie, eh bien, il n'y aurait plus cette charité dans le soin des malades. Vous avez déjà pensé à cela ? Eh bien, il faut y penser. D'une part, c'est impossible parce que le bon Dieu l'a dit à Adam et Ève, c'est une conséquence du péché originel. Mais en plus, évidemment, ça nous empêcherait de pratiquer cette charité finalement. Donc le modèle du monde peut paraître séduisant et trompeur. Sans aller chercher dans tous les excès des personnes ultra riches qui n'ont plus aucun besoin. En fait, ils réclament toujours quelque chose. Sans aller chercher dans la volonté de ceux qui dominent le monde et qui aiment cela, qui aiment imposer leurs idées, imposer leurs lois à tous les hommes. Évidemment, on pense à la plupart des hommes politiques parce que la plupart ne cherchent pas le bien réel de leurs concitoyens, le bien commun, mais aiment surtout dominer, imposer leur volonté, commander. Sans aller jusque-là, vous voyez que nous pouvons nous interroger sur notre état d'esprit. Est-ce que nous n'avons pas tendance à rechercher cette sécurité, cette indépendance, à ne pas vouloir obéir au bon Dieu, à ses commandements, ou à ne pas accepter les faiblesses, les misères de notre propre vie, corporelle ou même spirituelle. Au contraire, la logique chrétienne, c'est la logique d'une faiblesse qui est assumée et une puissance qui est reçue de Dieu. Je vous le rappelais il n'y a pas si longtemps. D'abord, contrairement à l'esprit du monde, nous sommes amenés à accepter la dépendance. La dépendance d'abord vis-à-vis de Dieu. L'homme se croit meilleur, plus libre, en pensant que Dieu n'existe pas et en voulant se déterminer soi-même. Eh bien, au contraire, l'Évangile nous apprend qu'être libre, c'est être parfaitement dépendant de Dieu. Parce que si nous sommes parfaitement dans la dépendance vis-à-vis de Dieu, nous faisons non pas notre volonté, mais sa volonté. Nous ne nous ordonnons pas au bien selon nos propres idées du bien, mais en étant ordonnés par Dieu, nous sommes ordonnés au véritable bien. C'est donc un renoncement véritablement à soi-même, à sa volonté propre. C'est admettre que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de savoir quel est le vrai bien et de savoir comment se tourner vers ce véritable bien. C'est avoir le sens donc de la hiérarchie. La hiérarchie, c'est-à-dire l'ordre qui existe entre nous, créatures, et Dieu. L'ordre qui existe également entre chaque créature. Reconnaître chacun sa place. Reconnaître à quelle place nous sommes vis-à-vis de Dieu, mais aussi dans la société. C'est bien pour cette raison que les apôtres, que ce soit saint Paul, notamment dans l'Épître aux Romains, ou l'apôtre saint Pierre, nous rappellent aussi la nécessaire obéissance aux autorités civiles. Parce que derrière, il y a l'obéissance à Dieu. Parce que derrière, il y a une vision supérieure, la vision de la providence divine. La hiérarchie implique, et le sens de notre dépendance implique cette obéissance même aux autorités civiles, à partir du moment où elles ne nous commandent rien qui soit contre la loi de Dieu ou contre les lois d'Église, au nom même d'ailleurs de cette hiérarchie, parce que il vaut mieux effectivement obéir à Dieu qu'aux hommes, oui. Mais pour le reste, nous devons nous soumettre aux hommes à cause de Dieu. C'est à l'opposé de la mentalité du monde, où chacun veut se déterminer soi-même, où chaque citoyen est considéré comme faiseur de loi. C'est la mentalité radicalement démocratique, et là aussi, nous sommes tous plus ou moins infectés par cette mentalité. De même, l'obéissance à l'Église, c'est une dépendance filiale. L'Église ne peut rien commander, évidemment, à tous les chrétiens et ne rien définir qui soit contre la foi et les mœurs. C'est pour cette raison que, au nom de la foi, nous devons rejeter Monsieur Bergoglio comme n'étant pas véritable successeur de Pierre, avec toutes les conséquences que ça entraîne. Sinon, on retombe dans cette mentalité. On prétend avoir un supérieur, mais on est meilleur juge que lui. Nous ne sommes pas meilleurs juges que Bergoglio ou Vatican II. Parce que Bergoglio ou Vatican II sont déjà jugés. Ils sont jugés par la foi catholique, tout simplement. Donc nous avons notre référence. Nous ne sommes pas orgueilleux. Nous ne nous plaçons pas au-dessus d'eux. C'est l'Église qui est au-dessus d'eux et nous nous mettons en dessous de l'Église. Donc il faut garder aussi cet esprit hiérarchique en attendant que le bon Dieu daigne nous donner un véritable successeur de Pierre. Mais Comme je l'ai dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, je pense que le monde ne le mérite pas, que les chrétiens ne le méritent pas, que les catholiques ne le méritent pas, parce que personne, pratiquement aujourd'hui, n'a cette bonne mentalité, ce respect de la hiérarchie et de l'obéissance à l'Église. Et Dieu nous donnerait-il un bon pape ? Je doute qu'il y ait encore beaucoup de chrétiens pour lui obéir. Donc, accepter notre dépendance vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de toutes les hiérarchies instituées par le bon Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes, si nous ne voulons pas de Bergoglio, si nous ne voulons pas de Vatican II, c'est justement par esprit de dépendance vis-à-vis de la Sainte Église catholique. Si nous gardons ces lois, que ce soit les lois liturgiques, telles qu'elles ont été avant Vatican II, telles qu'elles ont pu être modifiées même par de véritables successeurs de Pierre. C'est en raison de cette dépendance, parce que l'Église est meilleur juge que nous. Si nous continuons donc à observer ces lois, c'est pour cette raison. Donc dépendance vis-à-vis de Dieu, reconnaissance aussi finalement que cette dépendance, c'est ça qui fait notre force, nous mettre donc dans la main de Dieu. De même, contrairement au monde, le monde pense que ce qui est bien, c'est d'être riche et puissant. Au contraire, l'Évangile nous invite à la pauvreté à travers tous ces contrastes. Non pas paradoxe employé par saint Paul, nous retrouvons aussi les paradoxes des béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Donc nous manquons de tout, mais nous possédons tout. Il faut reconnaître que nous manquons spirituellement de force, que nous manquons de vertu pour aller les chercher où il faut, c'est-à-dire en Dieu. Reconnaître également que remettre à leur place tous les biens temporels, la richesse, les honneurs, la reconnaissance, ce n'est pas ça qui va nous rendre meilleurs. C'est ce que nous enseigne aussi ici notre Seigneur et l'apôtre saint Paul. On peut être pauvre sans être pour autant quelqu'un de bon, d'honnête. On a tendance aujourd'hui à considérer le pauvre nécessairement comme quelqu'un de bien qu'il faut aider. Pareil dans l'autre sens, le riche, on le considère souvent comme déshonnête, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc le problème, il n'est pas là. Il est dans notre mentalité et d'en remettre à leur place les biens temporels. Notre richesse, elle n'est pas dans ces biens, elle est dans les biens spirituels. Là où est votre trésor, là est votre cœur. Nous rappelait notre Seigneur Jésus-Christ et donc l'Église dans l'Évangile de ce premier jour du carême, du mercredi des cendres. Si nous mettons notre cœur dans les richesses temporelles, eh bien, ce sera donc notre trésor et notre cœur sera accaparé par cela. Si nous mettons notre cœur, notre volonté, notre désir dans la reconnaissance des autres, eh bien, notre cœur sera obsédé par cette reconnaissance et ne trouvera que des blessures en réalité. Parce que ce qu'il faut rechercher, c'est surtout la reconnaissance de Dieu. Et Dieu, nous savons ce qu'il reconnaît. Il reconnaît ceux qui sont siens. Et comment il reconnaît ceux qui sont siens ? Par la grâce sanctifiante. Parce que nous sommes ses fils par la grâce sanctifiante. Enfin, comme on le disait en introduction, nous devons, et spécialement pendant ce temps du carême, qui est une ascension vers le chemin de croix, vers le calvaire, il faut vivre le paradoxe de la croix. Cela paraît l'humiliation totale, la mort, la fin pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui le suivaient. D'ailleurs, ils l'ont abandonné. À part l'apôtre Saint Jean, quelques saintes femmes, Tout semble terminé sur la croix. Il est dénué, il n'a plus rien, plus aucun bien matériel, il n'a plus d'honneur. Il a été dépouillé absolument de tout, de cet honneur. Son corps n'est plus qu'une blessure absolue, d'une manière qu'on n'imagine même pas, mais qu'on peut toucher quand on regarde le Saint-Suaire de Turin et toutes les marques qui y ont été imprimées. Il n'a plus rien, il n'est que souffrance, douleur. Et bien voilà ce qu'est l'exemple de la vie chrétienne. L'acceptation même du dénuement total. Si le bon Dieu le veut, si le bon Dieu le demande, on ne va pas le rechercher forcément exprès. Mais nous avons certainement beaucoup d'occasions quand nous considérons que notre honneur est bafoué, que nous n'avons pas la reconnaissance que nous méritons, que nous n'avons pas les richesses que nous devrions avoir, quand nous subissons des injustices, etc. Mais c'est là que nous sommes ou que nous avons l'occasion d'être véritablement chrétiens et d'être véritablement à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes bien chers frères, le carême, c'est un temps pendant lequel nous sommes appelés à réajuster nos valeurs, nos pensées, à sortir de la logique du monde pour entrer dans la logique divine. Pourquoi l'Église nous demande de renoncer aux biens temporels, que ce soit dans la nourriture, les efforts, sur le jeûne et l'abstinence, pour nous rappeler cette réalité que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Pourquoi nous rappelons le devoir nécessaire d'aide à l'Église temporellement, avec donc le denier du culte? Parce que, là encore, eh bien, c'est un besoin pour l'Église, c'est un devoir pour les fidèles, et c'est une invitation à mettre à disposition du bien divin ce que nous réalisons avec l'aide de Dieu et nos faibles moyens dans nos chapelles, c'est-à-dire vous transmettre la sainte foi, vous transmettre les sacrements. Il est logique qu'il y ait cet échange et que vous estimiez davantage les biens spirituels que matériels. Donc remettons-nous en question surtout les critères. Donner du temps, non plus au divertissement, mais à la prière, à la lecture spirituelle, etc. Toutes les occasions sont bonnes, mais c'est surtout pendant le carême que nous allons faire des efforts précis, des efforts spéciaux. Donc demandons la grâce aujourd'hui d'embrasser cette sagesse de l'Évangile, cette sagesse qui nous fait considérer les biens à leur place, qui nous fait considérer que la faiblesse, la souffrance sont des moyens d'aller vers le bon Dieu avec son aide. La dépendance nous permet d'être vraiment dans la main de Dieu et de mieux avancer dans la vie spirituelle. Les échecs, le manque de reconnaissance, etc., eh bien tout cela nous rend plus conformes à notre Seigneur sur la croix et donc nous permettra, avec la grâce de Dieu, avec son aide, d'atteindre aussi la gloire de la résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.